bonjour. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les documents qu'on a reçus sur l'électrostatique et les condensateurs. L'idée, c'est de vraiment extraire l'essentiel sur comment les charges se comportent dans les conducteurs et puis comment on stocke l'énergie électrique. Alors accrochez-vous, il y a des choses assez étonnantes.
Tout à fait. On va aborder là des concepts fondamentaux. Comprendre comment les charges électriques se répartissent à l'équilibre sur un conducteur ou comment un condensateur accumule de l'énergie, c'est vraiment crucial dans plein de domaines technologiques et scientifiques.
Parfait. Alors allons-y, décortiquons ça. Commençons par les conducteurs électriques en équilibre. Quand on pense conducteur, souvent on imagine du courant, des charges qui bougent. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier quand tout est immobile, à l'équilibre ?
Mais ce qui est frappant, c'est que dans un conducteur en équilibre électrostatique, toute la charge électrique nette, elle se retrouve uniquement à sa surface, vraiment à la surface.
Uniquement à la surface.
Oui, à l'intérieur même du conducteur, le champ électrique est rigoureusement nul, zéro.
Ah bon ? Et pourquoi ça ?
Pourquoi ? Parce que les charges libres du conducteur, les électrons par exemple, ils se sont justement déplacés, ils ont bougé, jusqu'à ce que le champ qu'ils créent eux-mêmes annule complètement tout champ électrique à l'intérieur. C'est une sorte d'autorégulation, si vous voulez.
Ah d'accord. C'est cette mobilité même des charges qui aboutit à cette situation statique à l'intérieur.
Et c'est ça, le principe derrière la fameuse cage de Faraday, pour nous isoler des champs extérieurs. Exactement. La cage de Faraday, c'est l'application directe de ce qu'on appelle le blindage électrostatique. Et à la surface, ce n'est pas tout, le champ électrique, s'il y en a un, il est toujours perpendiculaire à la surface. Toujours.
Perpendiculaire.
Oui. Et sa force, son intensité, si vous préférez, elle dépend directement de la densité de charge juste à cet endroit.
C'est le théorème de Coulomb qui nous donne la relation précise.
Mm-hmm.
Plus il y a de charges accumulées par unité de surface, eh bien plus le champ est intense juste à la sortie du conducteur.
Donc, si une zone de la surface est très chargée, ça crée un champ très fort juste à côté.
Précisément.
Et ça nous amène à un phénomène intéressant mentionné dans les sources, le pouvoir des pointes.
Le pouvoir des pointes.
Oui. Sur les parties d'un conducteur qui sont très courbées ou carrément pointues, les charges électriques ont tendance à s'accumuler davantage. La densité de charge y est plus élevée.
Ah.
Et donc, le champ électrique juste à la sortie de ces pointes est beaucoup plus intense qu'ailleurs. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi la foudre va plus facilement frapper un paratonnerre, qui est pointu, ou pourquoi on peut générer des étincelles plus facilement depuis une pointe. Le champ est tellement fort qu'il peut ioniser l'air autour.
Fascinant.
Et un dernier point crucial pour l'équilibre, le potentiel électrique. Il est constant, absolument partout dans le conducteur et sur sa surface.
D'accord, potentiel constant partout, très clair. Bon, une fois qu'on a vu comment les charges se placent sur un conducteur isolé, les sources nous parlent ensuite de systèmes de conducteurs proches les uns des autres. Et c'est là qu'on introduit la capacité électrostatique et les condensateurs, c'est ça ?
C'est exactement ça. La capacité électrostatique, qu'on mesure en farad, symbole F majuscule, ça mesure justement cette aptitude, cette capacité d'un conducteur, ou plus souvent d'un système de conducteurs, à stocker de la charge électrique pour une différence de potentiel, une tension, donnée entre eux.
D'accord.
Et un condensateur, typiquement, c'est ça. Ce sont deux conducteurs qu'on appelle les armatures, qui sont placés très près l'un de l'autre, mais sans se toucher, ils sont isolés.
Le modèle le plus simple qu'on étudie souvent, c'est le condensateur plat. Deux plaques métalliques parallèles, face à face. Et ces condensateurs, alors ? Leur utilité principale, c'est juste d'accumuler des charges. Qu'est-ce qu'on en fait, concrètement ?
Ils accumulent des charges, oui, mais en faisant ça, ils stockent surtout de l'énergie électrique. C'est ça le point clé.
De l'énergie ?
Oui, de l'énergie potentielle électrique. Cette énergie, en fait, elle correspond au travail qu'il a fallu fournir pour séparer les charges positives et négatives et les amener sur les deux armatures, l'une en face de l'autre. Ça crée une tension entre elles. On peut voir ça un peu comme un petit réservoir d'énergie électrique, quoi. Une réserve temporaire.
Un réservoir d'énergie.
Voilà. Et cette énergie peut être libérée, souvent très rapidement. Pensez au flash d'un appareil photo, par exemple, ou même à un défibrillateur cardiaque. Ils utilisent l'énergie qui a été stockée au préalable dans des condensateurs.
Ah oui, je vois. Donc le stockage d'énergie, c'est vraiment la fonction essentielle.
Absolument. Les sources indiquent même qu'on peut parler d'une densité d'énergie, c'est-à-dire l'énergie stockée par unité de volume dans l'espace entre les armatures, là où il y a le champ électrique. Et ces composants, ils sont très utiles en électronique parce qu'on peut les combiner.
Comment ça, les combiner ?
On peut les mettre en série, les uns après les autres, ou en parallèle, côte à côte, dans un circuit. Et selon comment on les associe, on obtient une capacité équivalente différente. Ça permet d'ajuster la capacité totale aux besoins précis du circuit.
Malin.
Et il y a un autre point important. Si on glisse un matériau isolant, qu'on appelle un diélectrique, du plastique, du verre, de la céramique, entre les armatures, eh bien ça modifie la capacité du condensateur. En général, ça l'augmente. Et ça permet aussi d'appliquer des tensions plus élevées, sans risque de claquage. C'est très utilisé pour faire des condensateurs plus performants et plus compacts.
C'est vraiment intéressant de voir comment tout ça s'enchaîne. On part de la simple idée de charges qui se répartissent sur la surface d'un conducteur.
Oui.
Et on arrive à des composants bien réels, les condensateurs, capables de stocker de l'énergie avec des applications partout autour de nous, en fait. Dans les circuits électroniques les plus simples, jusqu'aux technologies de pointe.
Tout à fait. Ces principes d'électrostatique, même s'ils décrivent une situation d'équilibre où rien ne bouge en apparence, ils sont vraiment le socle, la base pour comprendre non seulement l'électronique, mais aussi des phénomènes plus complexes où là, les charges se mettent en mouvement.
Justement, en parlant de mouvement, pour terminer notre exploration d'aujourd'hui, quelle question ou quelle idée on pourrait laisser à nos auditeurs pour prolonger un peu la réflexion ?
Eh bien, dans les documents qu'on a parcourus, il y a aussi des termes qui apparaissent comme courant électrique, générateur de tension, circuitation du champ électrique. Ça ouvre une porte, non ? On s'est focalisé ici sur l'équilibre, le statique.
Oui.
La question naturelle qui vient après, c'est comment on passe de cet état où les charges sont immobiles, en équilibre, à une situation dynamique. Une situation où elles circulent, où elles forment un courant électrique dans un circuit. Comment l'électrostatique, ce qu'on vient de voir, s'articule avec ce qu'on appelle l'électrocinétique, c'est-à-dire l'étude des circuits, des courants créés par des générateurs de tension. Quel est le lien, en fait, entre le statique et le dynamique ?
Excellente question pour ouvrir l'appétit. Du statique au dynamique, voilà qui donne effectivement envie d'aller creuser un peu plus loin. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette analyse approfondie.